Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Mes chers amis, bonjour, ici Pauline Agneau et vous êtes sur Le Gratin. Le Gratin, c'est un podcast où je vous emmène toutes les semaines à la rencontre de personnalités toutes plus exceptionnelles les unes que les autres. Des chercheurs, des entrepreneurs, des sportifs de haut niveau, des scientifiques, des philosophes aussi, pourquoi pas, qui ont tous un point commun. Être parmi les meilleurs au monde dans leur domaine. Et l'objectif dans cette histoire, c'est de vous aider via ces mentors virtuels à devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le gratin Alexandre Camarasa, qui est joueur de waterpolo professionnel. Je vais d'ailleurs vous lire un bout de sa bio sur Wikipédia pour que vous puissiez avoir un petit peu plus d'infos à son sujet avant de commencer. Avant ça, si vous souhaitez le contacter, il est disponible sur tous les réseaux sociaux. N'hésitez pas donc à le contacter si l'épisode vous a plu. Alexandre Camarasa, je vous mets en tout cas les liens dans les notes de l'épisode, sur LinkedIn, sur Twitter, sur Instagram et aussi, je crois, sur Facebook. Je pense que ça lui fera plaisir et surtout ça vous permettra de voir l'envers du décor de qu'est-ce que c'est qu'être joueur de waterpolo. Alors qui est Alexandre Camarasa, né le 10 juin 1987 à Marseille, c'est Wikipédia qui nous le dit, il est donc joueur français de waterpolo. Il évolue en club au Cercle des Nageurs de Marseille, avec lequel il est champion de France à 7 reprises quand même. Il est aussi d'ailleurs membre de l'équipe de France de waterpolo masculin. Alexandre a déjà participé aux Jeux Olympiques, aux Championnats du Monde et évidemment aux Championnats d'Europe. Mais en parallèle de ça, figurez-vous que l'une de ses particularités, c'est qu'il a une autre activité professionnelle, puisqu'il est consultant chez KPMG. Ce qui m'a intéressé avec Alexandre, c'est évidemment de comprendre d'abord le métier d'athlète de waterpolo, de comprendre ce sport, de comprendre tous les sacrifices qu'il va impliquer, mais aussi évidemment de comprendre comment est-ce qu'on mène de front deux activités professionnelles aussi intenses. Vous allez voir, c'est absolument passionnant. Et si j'en retiens quelques mots-clés, le plaisir du jeu, avant toute chose, le plaisir de partager et de jouer en équipe. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Alexandre Camarasa. Alexandre, bonjour, bienvenue sur Le Gratin.
Bonjour Pauline.
Écoute, merci d'avoir accepté l'interview. Un week-end, tu sors de l'entraînement, donc je suis très contente d'avoir réussi à te cueillir au sortir du bain, si je puis dire.
Je sors de l'eau, encore mouillé.
Tu sors de l'eau. Écoute, justement, si ça te va, je voulais commencer par parler d'une de tes vies, puisque tu as plusieurs vies, la vie de, je sais pas comment on dit, waterpolo, enfin athlète de waterpolo,
poloiste.
Et ben voilà. Et si ça te va, je veux bien que tu nous racontes un petit peu à quoi ressemblent tes journées en période d'entraînement. J'imagine que tu as peut-être des périodes où tu t'entraînes un peu moins, mais pour qu'on se rende compte, tu vois, que je me rende compte aussi, que qu'est-ce que c'est que finalement ce métier d'athlète de water polo. Et j'aimerais surtout qu'on comprenne, tu vois, l'implication que nécessite cette passion en termes de temps et de sacrifice.
Donc le water polo, c'est du bi-quotidien. Donc je m'entraîne 8h45 midi le matin. Dedans, il y a à 8h45, on commence la muscu et on finit vers 10h. Ensuite, on va dans l'eau. On nage beaucoup. Cette année, on nage beaucoup. On a la chance d'avoir Romain Barnier, ancien entraîneur de Florent Manodou, qui nous fait la natation.
Donc, en fait, tu fais de l'entraînement physique. Ouais. Je vais t'interrompre de temps en temps, je suis désolé, mais tu fais de l'entraînement donc muscu. Et ensuite, quand tu dis entraînement natation, c'est vraiment des longueurs.
Ah, oui, c'est longueur. C'est bonnet, lunettes. Et maintenant, je mets même des palmes. C'est assez rigolo de me voir nager comme ça. Mais
j'ai vu ça sur ton compte Instagram, que tu avais des petites palmes comme
Exactement.
Ça.
Exactement. Ça ne me bat pas du tout, mais ça m'aide à aller un peu plus vite.
Et alors, pourquoi les petites palmes ?
Ça m'aide à aller plus vite, en fait. Voilà.
D'accord.
Comme on nage beaucoup, beaucoup, et que je suis un peu la personne âgée de l'équipe, j'ai demandé à avoir ces petites palmes pour m'aider à être en rythme. Voilà.
Ça marche.
Et donc, ensuite, on fait un petit peu de ballon, un peu de technique, de foot. L'après-midi, moi, je pars à KPMG, mais on en parlera plus tard. Et le soir, c'est retour 18h45, 21h, où là, c'est vraiment beaucoup de tactique, de contre-attaque, de répétition de gamme de jeu. Donc, c'est une belle journée.
Mais ça, Alexandre, tu fais ça tous les jours que Dieu fait ?
Ouais, tous les jours.
C'est monstrueux.
Et si j'ai pas un entraînement, enfin, si j'ai un entraînement qui saute dans la journée, là, je vais devoir faire les soins. Au bout de quelques années de haut niveau, j'ai beaucoup de blessures, donc il faut entretenir la machine.
Là, aujourd'hui, on est dimanche et tu as été t'entraîner.
Ouais.
Et je voulais parler avec toi quand même de ce rythme que je trouve juste fou. Mmh. Parce qu'en plus, on va en parler après, hein, mais tu travailles en parallèle de ça.
C'est
donc, c'est pas comme si le reste du temps, tu dormais.
C'est
quoi.
Ça.
Comment tu arrives à trouver un rythme dans lequel tu travailles autant, parce qu'on sait le sport, ça fatigue quand même physiquement, donc voilà, pour réussir à récupérer. Est-ce que tu t'imposes des récup? Est-ce que ton entraînement peut-être t'impose des récup?
C'est très compliqué, j'avoue, je suis plus fatigué que les autres. J'ai un rythme de vie plus dur. En fait, j'ai pas de temps mort. Les après-midi où mes coéquipiers dorment, moi je suis au travail. Donc ça engendre de la fatigue. Donc moi, j'essaie dès que j'ai un petit moment, même 10 minutes où je peux un peu souffler, j'essaie de les prendre, de me retrouver, de souffler, d'évacuer toute cette pression. Et c'est reparti. Bon, par contre, j'ai fait une croix sur ma vie sociale. Je sors pas, je bois pas, je fume pas. Voilà. Et les week-ends, je me repose. Je vais vraiment à l'essentiel, quoi. C'est le water polo, KPMG et bien entendu ma famille qui est important.
Bah écoute, je te remercie d'autant plus d'avoir accepté l'interview parce que là, j'imagine que tu n'as qu'une envie, c'est d'aller faire une sieste en ce dimanche après-midi.
Non, j'ai envie de jouer avec ma fille qui est à côté, là, mon petit bébé de 18 mois. Donc,
Mais du coup, ce que tu dis, c'est ça quand même, c'est qu'en fait, tu es obligé de prioriser parce que quand on a une passion qui est plus qu'une passion, en fait, c'est une vocation, enfin, c'est ta vie, t'es obligé quand même à un moment donné de faire des choix.
Complètement. Mais je le vois. Hein. Mais c'est un choix aussi que j'impose à ma famille. Par exemple, ma femme, le soir, elle aimerait bien aller faire un petit restaurant ou quoi. Moi, j'arrive le soir dans l'entraînement. Après une journée comme ça, j'ai juste une envie, c'est de me mettre sur le canapé, de rien faire, quoi. De me coucher, de me reposer. Donc oui, c'est un choix, c'est des sacrifices pour moi et pour ma famille. Mais après, la finalité et ce pourquoi je le fais, ça en vaut la peine.
C'est quoi pour toi le sacrifice le plus dur ?
Ben là, c'est de pas trop voir ma fille. Voilà, c'est très compliqué. Avant, quand elle était pas là, ce petit bout de chou, ça allait. Mais là, j'aimerais bien être le plus possible avec elle, la voir grandir. Et quand je pars longtemps en stage, c'est compliqué. Heureusement, maintenant, il y a les nouvelles technologies où on peut arriver à faire la vidéo, mais c'est pas pareil. Là, par exemple, un truc tout bête, mais elles sont allées au parc et c'est la première fois qu'elles faisaient les petits camions automatiques, là. Je sais pas comment ça, les petits manèges.
Ouais.
À 18 mois, comme une grande, j'ai eu la vidéo, j'étais fier d'elle, mais j'aurais voulu participer. C'est un truc tout bête,
ouais.
Mais être avec elle, la voir grandir, mais c'est sacrifice aussi pour elle plus tard, pour qu'elle soit dans les meilleures conditions possibles. Je veux lui offrir tout ce qu'elle désire, en fait. C'est aussi pour elle que je fais ça.
Puis peut-être pour lui donner, je ne sais pas si tu y penses de temps en temps, mais un exemple aussi. Enfin, je trouve que quand même, quand on voit tous ces sacrifices, moi, c'est pour ça que j'adore avoir des grands sportifs sur le gratin, c'est que je trouve qu'on se rend compte à quel point ils mettent une intention forte dans ce qu'ils font, parce qu'en fait, on dit souvent, tu sais, choisir, c'est renoncer.
C'est
et là, en fait, quand tu fais le choix d'une carrière comme la tienne, tu renonces à plein de choses.
Ça.
Et je trouve que c'est hyper beau et inspirant. Et du coup, je suis d'autant plus touchée que tu acceptes de prendre ce temps pour moi.
Oui, on peut pas le faire les choses à moitié. C'est ça le truc. Surtout, en plus, dans le water polo, si tu n'es pas prêt physiquement, mentalement, ça peut être même dangereux physiquement, parce que les adversaires, eux, ils sont prêts. Ils peuvent te faire mal.
Ouais.
Donc, c'est le côté un peu compliqué à gérer. Mais j'essaie de faire au mieux pour sortir bien des bassins.
Je Justement, si ça te dérange pas, Alexandre, on en parlait juste avant de commencer en off, là, et je te disais que alors, j'avais joué vite fait 2-3 fois au water polo et que j'avais trouvé que c'était juste le sport le plus dur de la Terre. Bon, il faut dire que je mesure 1m60, donc ça aide pas trop. Mais je trouvais ça vraiment très, très dur. Et je voulais te demander si, pour les personnes qui nous écoutent, qui ne connaissent pas ce sport, tu pourrais nous expliquer en quelques mots le principe, en fait, tout simplement.
C'est comme du handball sur un terrain inondé, joué par des joueurs de rugby, en fait, qui nagent très vite, qui ont une belle endurance et qui ont des beaux shoots aussi. Voilà, c'est très physique. Beaucoup d'allers-retours, beaucoup de combats. Il y a beaucoup de judo, surtout à mon poste où c'est vraiment une prise de position, donc il y a de la lutte. C'est vraiment un beau jeu, c'est à voir. Donc je vous conseille à tous un jour d'aller, quand ce sera réouvert, aller soutenir vos équipes. Et à découvrir ce beau sport. C'est vraiment un très beau sport et moi, c'est le sport de ma vie, quoi.
Tu peux quand même nous parler un peu plus des règles en détail, parce que là, tu nous parles de lutte et tout, et je pense que les gens prennent peur.
Non, n'ayez pas peur.
C'est quand même pas non plus de la boxe, hein,
non,
je vous rassure.
Non, non.
Mais est-ce que tu peux nous dire globalement combien de temps dure un match? Okay. Quel est le but du jeu, etc. Vraiment, parce que je pense qu'il y a quelques personnes, sincèrement, qui ne connaissent pas le water polo, et je trouve ça très dommage,
d'ailleurs. Alors, c'est 4 fois 8 minutes de temps de jeu effectif. Donc, dès que l'arbitre siffle, celui qui a la balle s'arrête de jouer. Mais à côté, ça continue à jouer. Donc en fait, c'est 4 fois 8 minutes, mais le match dure à peu près une heure et quart. Le gagnant, c'est celui qui marque le plus de buts, ou qui en prend le moins. Et c'est à la mi-temps, il y a 3 minutes maintenant. 3 minutes. Donc on est 7 dans l'eau, 6 remplaçants, un gardien de but. Et ça fait beaucoup de changements, parce qu'on est obligé de changer, et surtout au niveau international, où là, c'est très compliqué de faire un match complet, voire même impossible. Donc il y a beaucoup de changements, des changements volants maintenant qui ont été mis en place. Et c'est très dynamique. Et maintenant, c'est de plus en plus physique, en fait. On sent que la préparation physique est bien mise en avant, quoi.
Et quand tu dis que c'est impossible quasiment de rester à sa place pendant tout le match, c'est qu'en fait, c'est tellement fatigant que tu ne peux pas faire... Et pourtant, ça paraît pas très long, 8 minutes. Mais c'est que les 8 minutes sont tellement intenses. C'est un peu pour moi d'ailleurs comme du squash, mais le squash dans l'eau, quoi.
Non, c'est vraiment...
C'est tellement intense que tu peux pas.
Mais surtout à mon poste où c'est de la lutte, c'est vraiment une prise de position pour permettre en fait à l'équipe de pouvoir au mieux développer le jeu. En attaque, moi je suis comme le pivot. Donc j'ai tous mes coéquipiers en face de moi. Moi je suis dos à la cage. Donc si.
C'est quoi le nom de ton poste?
Moi je suis pivot, c'est une pointe en fait, comme on dit au water polo. Pointe.
D'accord.
Donc je suis placé en attaque, dos à la cage. Devant moi il y a tous mes coéquipiers. Et mon job, le plus important, c'est de leur permettre d'avoir des espaces. Donc, je dois prendre le dessus sur mon adversaire pour pouvoir permettre à mes coéquipiers de pouvoir mieux jouer, mieux s'exprimer, parce que leurs défenseurs seront obligés de revenir pour me couvrir à moi. Parce que j'impose vraiment un stratégique. Donc, si on me laisse jouer, moi, si c'est du 1 contre 1, ça va. Mais si je commence à prendre l'avantage et qu'il reste au pressing, là c'est bon pour moi, mais toutes les équipes en fait ils reviennent directement en zone. Je sais pas, c'est compliqué un peu ça, c'est des termes un peu techniques, mais en fait moi mon but c'est de créer des espaces dans la défense adverse pour pouvoir permettre à mes coéquipiers de marquer, tout simplement.
Ouais. Et quand tu disais donc on peut, enfin une fois de plus je reviens à ces 4 fois 8 minutes qui paraissent assez courts pour quelqu'un, tu vois, qui regarde du foot ou du rugby. En fait, c'est à la fois très court et j'imagine que pour vous, c'est interminable.
Ouais, c'est
8 minutes. Comment tu décrirais, en fait, ces périodes? C'est-à-dire que c'est... Qu'est-ce qui fait que c'est aussi intense? Je ne sais pas si tu vas pouvoir le dire avec des mots. Je pense qu'il faut voir aussi. Je vous invite,
mais
c'est d'abord un match de water polo.
On va au bout, quoi, de l'effort. Il y a quelqu'un qui est sur toi, qui a vraiment envie de te dominer physiquement, de t'exclure presque de l'attaque, toi. Donc toi, tu dois résister. Et quand les 30 secondes, parce qu'une attaque, c'est 30 secondes. Quand les 30 secondes sont finies, tu dois revenir en défense. Et en défense, là, tu as un vrai travail de défense à faire. Il n'y a pas un joueur.
Tout ça dans
le... Et il n'y a pas un joueur qui est dispensé d'attaque ou de défense. Tout le monde participe. Tout le monde est ensemble dans le projet. Donc c'est du 100% tout le temps. Et en fait,
il y a aucun moment de pause.
Aucun moment de pause. Ouais, et comme tu l'as dit, c'est dans l'eau. L'eau, c'est... n'est pas fait pour aller dans l'eau, non, à base. C'est un truc inconnu.
Non, mais pour, en fait, parce que juste, il faut réaliser que pour te déplacer de l'avant à l'arrière, rien que ça, c'est un effort, en fait.
C'est ça, rien que ça. Donc, on n'a pas de moment de répit. Et en fait, parce que je ressens, moi, quand je vais vraiment au bout, c'est comme, je sais pas, quand vous faites votre footing et qu'à la fin, vous faites un dernier sprint, que vous voyez les jambes, vous avez mal aux jambes, vous avez des problèmes pour respirer et tout, que là, vous sentez que tout votre corps travaille, c'est ce que je ressens pendant les matchs. Ouais, c'est assez particulier. C'est pour ça que je sors un peu souvent. Pour récupérer.
Et tu, ouais, c'est ça. Et donc, mais donc, t'as le droit concrètement de faire, par exemple, 2 fois 8 minutes. T'es pas obligé de faire 4 fois 8 minutes sur un match.
Mais moi, à mon poste, par exemple, je fais 2 minutes, je sors 2 minutes, je rentre 2 minutes. C'est assez cyclique.
D'accord.
Voilà, j'ai un partenaire qui joue avec moi au même poste et on tourne beaucoup. Alors, on peut pas se permettre de rester vraiment 8 minutes. C'est impossible.
Oui, t'as pas l'intensité nécessaire.
Après, c'est compliqué, sachant que les autres, les adversaires aussi, ils tournent. Donc, les défenseurs, ils sont plus frais. Non, c'est compliqué. Donc, c'est pour ça qu'on tourne beaucoup.
Hyper intéressant. Bah, écoute, merci déjà, parce que je pense que beaucoup de personnes devaient se poser un peu la question. Juste, j'ai une dernière question pratique sur le water polo. C'est quand tu dis on lutte.
Ah oui.
Il y a quand même des règles qui vous empêchent de vous taper dessus ou c'est vraiment en mode gros bourrin?
Non, dans le water polo, de toute façon, on est dans le partage. On aime bien s'échanger.
Oui, voilà. Dans le partage, on échange des coups aussi.
Dans la joie et la bonne humeur. Non, mais c'est vraiment un sport assez physique. Donc, y a un entraîneur qui me disait, tu es soit le bœuf, soit le boucher. Donc, il faut choisir. C'est la particularité de ce sport, mais c'est un sport de combat, c'est un sport d'engagement. Si après toi, tu perds ton défi, ton duel contre ton adversaire direct, c'est toute l'équipe qui à la fin va subir cette défaite. Une défaite collective et c'est une défaite individuelle et c'est la défaite collective. Donc c'est pour ça qu'on peut rien lâcher, jamais.
Sacrée pression, quoi.
C'est ça. Mais beau sport. Hein.
Qu'est-ce qui se... ça donne envie d'aller regarder des matchs. Franchement, j'espère que les personnes qui nous écoutent, quand ils vont regarder un prochain match de water polo, le regarderont assez différemment parce que je pense qu'on ne se rend pas forcément compte. Enfin, tu vois, même moi, pour l'avoir fait 1 ou 2 fois, pourtant, je savais que c'était dur, mais là, quand tu m'en parles, je me dis.
Non, mais c'est très physique, mais c'est vraiment un beau jeu, un beau sport. Il faut y avoir un peu de dextérité pour le ballon. Ce n'est pas que des bourrins qui jouent. Il y a des. Et des beaux buts, des belles actions, ça joue bien. Je vous le conseille sincèrement.
Est-ce qu'il t'arrive, quand t'es dans les vestiaires, juste avant d'entrer dans la piscine pour un match, ma question c'est, quelles sont tes sensations, tes émotions avant de rentrer dans l'eau, quand tu sais que tu vas souffrir physiquement? Ouais. C'est une question que je trouve hyper intéressante parce que tu me disais, c'est un peu comme de la boxe,
ouais,
au final. Et l'idée de se dire, je vais souffrir physiquement, je m'inflige une sorte de sévice physique, je trouve ça assez intéressant. Est-ce que c'est de la joie, du coup, que tu ressens? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de l'anxiété?
Ben, on est content déjà parce que c'est un jeu, quoi. C'est un sport court. Donc, moi, je vais jouer avec mes amis. Donc, je vais jouer avec mes coéquipiers. J'ai envie de gagner. Je m'entraîne si fort et si dur, c'est pour gagner. Donc, déjà, il y a l'excitation du match. Ensuite, après, selon les adversaires, il peut y avoir un peu d'appréhension. Si je sais que je joue contre un adversaire qui est assez rugueux, qui est, peut-être méchant, là, j'ai un peu plus d'appréhension. Avant, ça me dérangeait pas trop, mais maintenant qu'il y a ma fille dans les tribunes, j'ai pas envie qu'elle ait peur et qu'elle voit son père en sang, presque. Enfin, ça peut arriver, hein. Sur d'un mauvais coup, ça peut arriver. Comme au rugby, où parfois ils sont ouverts, mais c'est comme ça, c'est partie du jeu. Donc oui, un peu d'appréhension, mais j'essaie de pas y penser et je me dis que le travail a été fait, voilà, les entraînements ont été faits et que j'ai juste à dérouler et ça a bien se passé. Mais il y a une vraie concentration quand même, hein. Les matchs où je suis vraiment moins ancré dans le présent, où je pense plus à autre chose, c'est là où je passe vraiment à côté. Donc j'essaie vraiment de me retrouver, d'essayer de visualiser même les actions, faire un peu de sophrologie comme on appelle ça, de visualiser avant les ballons qui pourraient venir, les situations, essayer de me mettre vraiment de vivre cette situation, même de l'imaginer, de fermer les yeux, de savoir un peu les réactions que je pourrais avoir, comment je pourrais tirer. En fait, je donne des informations directement à mon cerveau. Une fois que l'action se passera, parce qu'elle se passera, c'est des actions de base, là, il sera prêt directement. J'ai l'impression d'enclencher un peu mon cerveau à ça.
J'allais te demander justement, c'est hyper intéressant que tu me parles de cette tu vois, prépa mentale, quoi, si tu avais des rituels justement de concentration. Parce que c'est tellement court que tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu es obligé d'être direct dans le match.
Ça. C'est ça.
Et donc, comment tu fais pour tout de suite passer de « je suis dehors dans le vestiaire » à « je suis à 400
%» Vraiment, en fait, il faut se ressourcer. Vraiment, il ne faut pas se laisser gangréner par les énergies négatives extérieures. Quand je suis dans le match, c'est fini, il n'y a rien qui compte autour, je suis vraiment focus, c'est parti. Alors moi, j'ai mon petit rituel, je vais dans le vestiaire, j'appelle ma mère tout le temps. Ou, qu'importe l'endroit, j'appelle ma mère. Ma mère, elle me dit, tout va bien, fais ta place, fais ma place, et c'est parti. Je mets le peignoir, le maillot, on est parti. Je monte au bord du bassin, je vois les adversaires, et là, c'est là que ça commence un peu à monter. Quand on les voit pas, ça va, on les a vus en vidéo plein de fois, mais et quand ils sont au bord du bassin, et que tu te dis, voilà, tu es chez toi, par exemple, si on joue à domicile, tu t'es dit, tu es chez toi, tu peux pas te permettre de perdre, quoi. Comme ça. Et surtout, je pense à tous les sacrifices que je fais. Et je me dis, c'est pas possible. Et c'est maintenant. Et c'est à toi de prouver que tu es là. C'est une petite prépa mentale, un peu Madine Camarasa, mais c'est celle qui me pousse depuis des années. Voilà, j'ai envie de montrer à ma famille qu'ils soient fiers de moi aussi. C'est un moteur. Mm. Moi, je joue beaucoup avec le cœur, en fait. C'est ce qui me motive. Et j'ai envie qu'ils soient fiers, qu'ils soient heureux. Et le sport, ça procure tellement de belles sensations. J'ai envie, quand je marque, qu'ils soient heureux, qu'ils sautent de joie. J'ai envie de leur procurer ça. C'est ça aussi un de mes objectifs. Et je le mets aussi dans la prépa mentale.
Ouais, je comprends. Ça t'arrive de temps en temps, enfin, ou ça t'est arrivé de, pendant un match, être envahi par d'autres pensées.
Bien sûr.
Tu sais, moi je te dis, je fais de la course à pied. En course à pied, tu penses à plein de trucs quand même, globalement, parce que c'est long, quoi. Ouais. Mais toi, je me dis, c'est court, t'as pas le temps. Enfin, tu devrais pas le faire.
Non, ça m'arrive.
Et ça t'arrive de temps en temps. Et t'arrives à chasser ces idées.
Le truc, c'est que, par exemple, en waterpolo, quand tu loupes une action, quand tu as un but tout fait, tu le loupes, ça peut venir te hanter. Tu peux te dire, non, je suis pas bien, qu'est-ce qui se passe? En fait, dès que tu laisses ton cerveau commencer à prendre le dessus, c'est fini. Il va commencer à te dire, tu es pas bon, aujourd'hui tu es pas bien, tu as mal à l'épaule. Et en fait, il faut pas l'écouter. L'action se termine, tête dans l'eau. Moi, je souffle. C'est un travail vraiment de respiration. J'essaie de me ressourcer, de me reconcentrer, de me dire, allez, la prochaine, c'est la prochaine, ce sera bon. J'essaie de toujours essayer de voir le positif, en fait. Le positif, c'est le plus important.
Oui, tu peux pas t'apesantir sur le petit échec que tu viens de vivre.
Non, parce que le match continue. Je peux pas me dire, oh non, j'ai loupé. Oh non, je suis pas bon. Non. En plus, si je loupe, moi, je dois revenir en défense. Donc, j'ai pas le temps de me dire, oh là là, de me prendre la tête. Oh, non, je suis déjà reparti en défense.
Le tout avec un cœur à 190.
C'est ça, que... tout rouge, fatigué. Mais non, en gardant le sourire, par contre.
ouais, je vois ça. Alexandre, du coup, c'est hyper intéressant, mais comment est-ce que t'es arrivé dans cet univers du water polo? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, tu t'es retrouvé dans un bassin à devoir sauter dans tous les sens pendant 4 fois 8 minutes pour marquer des buts et pour faire ce fameux pivot? Parce que c'est quand même... c'est pour ça d'ailleurs que je te pose toutes ces questions sur le water polo. C'est pas non plus le sport le plus commun. Donc, qu'est-ce qui a fait que tu es tombé dans la marmite du water polo?
Déjà, à Marseille, on a la chance d'avoir un beau littoral. Il y avait les calanques. Et quand j'étais vraiment jeune, j'adorais aller dans l'eau. Tout le temps, j'étais à l'eau. Et ma mère, elle m'a dit, bon, Alex, on va te faire passer le test à l'école de natation du Cercle Nageur de Marseille. Donc, j'ai commencé.
Le fameux.
Et j'ai jamais quitté. Donc, j'ai fait mon test et c'est un ancien grand champion. C'était Alex Jani. Il a été recordman du monde, je crois. Bon, il était immense, je me rappelle. Moi, j'étais tout petit. Et en fait, il me dit, bon, Alex, tu vas me faire 50 mètres à fond. Et après, si tu es bon, on te garde. C'est comme ça, il me dit. Oh, j'ai fait le 50 mètres le plus rapide de ma vie. J'ai dû mettre 1h15. Mais j'avais tellement mis de cœur. Il m'a dit, bon, allez, Alex, tu continues avec nous. Et depuis ce jour, je suis jamais parti de ce club. Donc, j'ai fait 4 ans de natation. Et un jour...
Donc, t'as commencé par la natation, en réalité.
C'est dur de se dire ça. Mais après, j'ai retrouvé la lumière. Vous inquiétez pas, j'arrive au water polo. Et en fait, l'entraîneur de natation, quand on faisait une belle séance, il nous jetait un ballon de water polo. Et c'était la récompense. Et moi, je me suis dit, bon, et j'adorais ça. J'adorais le water polo, j'adorais faire les passes, jouer avec mes amis. Et Je me suis dit, mais comment c'est possible? Je peux le faire tous les jours, je peux faire du waterpolo. Toujours, il y a une section au Cercle Nageur de Marseille. Il y a une section. Pourquoi je vais attendre que mon coach de natation il me dise, allez, tu as bien nagé, une fois par an, il va me donner un ballon. Là, je lui dis, non, c'est pas possible. J'ai dit, écoutez, je vais aller m'amuser. J'ai dit, j'ai envie de m'amuser. Le côté ludique, le côté sport d'équipe, c'est ce qui me manquait parce que nageur, c'est très compliqué. Compter les carreaux, c'est vraiment
c'est
dur.
C'est ça, j'allais dire, t'es quand même seul avec toi-même quand tu nages, quoi.
C'est très compliqué. En plus, ils n'ont pas beaucoup de compétitions. Les échanges que j'ai avec les nageurs du cercle, c'est compliqué pour eux de se remettre dedans parce que eux, ils ont une compétition tous les 6 mois presque. Moi, j'ai une compète chaque week-end. Chaque week-end, je dois être prêt. Eux, c'est une vision plus long terme. C'est plus compliqué. Donc, non, c'est... Et après, je me suis mis au waterpolo et j'ai plus bougé du cercle. J'ai été prêté 1 an à Aix-les-Bains, mais je m'entraînais quand même au cercle. Et après, je suis revenu et voilà, je suis là.
T'es là aujourd'hui.
Exactement.
À quel moment, je sais pas s'il y a un moment d'ailleurs ou si ça s'est fait de manière complètement naturelle, mais à quel moment en fait est-ce que tu passes de je suis au cercle, je fais du water polo, tu vois, comme un enfant fait du sport dans un club, à en fait j'en fais quand même une carrière d'athlète à dimension internationale ou on peut le dire, tu fais des compétitions, championnat de France, championnat d'Europe, etc. À quel moment est-ce que en fait tu du coup fais un choix de vie qui va être aussi impliquant quand on sait tous les sacrifices que tu fais aujourd'hui?
Moi, ça s'est fait vraiment naturellement. En fait, dès que j'ai eu mon bac, j'ai commencé à m'entraîner 2 fois par jour. Je me suis dit que c'était le moment en fait, de pouvoir aller au bout. Et donc, je me suis dit, ben, écoute, je vais essayer d'aller au plus loin possible, quoi. Je me suis dit, allez, tu as fait les sélections jeunes en équipe de France quand tu étais en 14 ans, 15 ans. Bon, j'ai fait toutes les sélections jeunes. Mais je voulais aller en équipe de France A. Je voulais faire les Jeux Olympiques. C'était mon rêve. Donc, je me suis dit, allez, tu vas t'engager dans cette voie. Ça va être compliqué. Beaucoup de sacrifices, mais tu vas aimer cette vie. Et ce sport va te changer à jamais. Il va t'apprendre tellement de belles choses. Et ça va te construire. Et je serai, l'homme que je suis, je dois en grande partie à ce sport. Il m'a tout apporté.
Quand t'as pris cette décision, quand t'as fait ce choix, en fait, tu disais, tu venais de passer ton bac. Donc, ça veut dire que par rapport à d'autres, parfois, enfants sportifs, ou en gros, clairement, depuis qu'ils ont 5 ans, tu vois, ils ont décidé qu'ils voulaient faire ça. Toi, j'ai l'impression que c'était pas le cas. Qu'est-ce que tu voulais? Tu te rappelles si tu voulais faire autre chose quand t'étais petit? Enfin, si t'avais d'autres rêves?
Je voulais être astronaute.
Et c'était quoi ta vision?
Astronaute. Je voulais être astronaute, après chirurgien, après écrivain. Mais non, vraiment, ça s'est fait naturellement.
Tu savais pas ce que
non,
tu...
Non, je savais pas du tout. Et jusqu'à il y a pas si longtemps que ça, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Moi, j'aime jouer avec mes amis. C'est ça mon sport, mon métier. C'est beau de se dire ça. Mon métier,
c'est quand même pas
jouer
mal.
Avec mes amis. Faire un sport ludique. Non, c'est ça. Comment dire? Voilà, ça s'est fait comme ça naturellement. Voilà, j'ai pas forcé le destin en disant je vais m'entraîner fort. Non, je me suis entraîné fort, pas pour être professionnel, mais pour moi, personnellement, progresser. Je me suis pas dit quand j'avais 15 ans, je vais être pro. Non. À 15 ans, je voulais gagner ma place. Je voulais être en équipe de France jeune. Et je voulais faire quelques matchs avec l'équipe 1 de mon club. C'est tout. Je ne vais pas au-delà.
Et dans les moments difficiles, parce que j'imagine qu'il y en a, ça peut être d'ailleurs, tu vois, tant des échecs, évidemment, dans le cadre du waterpolo, mais aussi le fait, comme tu disais, de ne pas passer assez de temps avec ta famille et tout. Ça t'est déjà arrivé d'avoir des doutes, de te dire pourquoi tout ça? Est-ce qu'il t'est arrivé à un moment donné, parce que ça fait quand même un moment maintenant, quand même, que je ne sais pas depuis combien d'années d'ailleurs, que tu joues vraiment à niveau professionnel comme ça?
Depuis mes 19 ans, 18-19 ans. J'ai 33 ans, ça fait quelques temps.
C'est ça. Et donc, est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'être assailli par ces fameux doutes qu'on a tous dans nos carrières, mais où toi, en fait, en plus, c'est tellement intense, une fois de plus, j'en reviens vraiment à ça, que si t'es pas à 100% motivé, en fait, tu jettes l'éponge, quoi.
Ça m'est arrivé, oui. Les blessures. La période la plus compliquée pour moi, c'était après les Jeux Olympiques, en fait. Je suis arrivé aux Jeux Olympiques, j'étais blessé, j'avais les hanches vraiment abîmées, j'avais une pubalgie, donc après les Jeux Olympiques, j'étais obligé de faire trois opérations.
Trois opérations.
On m'a opéré les deux hanches et on m'a opéré la pubalgie. Et donc, passer de l'euphorie olympique à Rio, avec tous les athlètes français, c'est la joie, c'est la fête. Voilà, c'est le sport, c'est ma compétition que j'ai toujours rêvé. C'est exceptionnel. À ne plus pouvoir te lever de ton canapé, le silence, ça c'est compliqué. Plus pouvoir marcher même, j'arrivais pas.
Silence parce que seul,
je me suis retrouvé seul. Seul, pas d'appel, rien. Là, c'est l'équipe, elle avance, elle. Mais toi, tu te retrouves seul. C'était compliqué. Mais j'ai rien lâché encore une fois. Je me suis mis des petits objectifs. Alors, un premier objectif, c'était arriver à mettre mes chaussettes tout seul. Bah, pendant longtemps, j'ai pas mis de chaussettes. Mais c'est un objectif tout bête. Mais objectif court terme, objectif moyen terme, objectif long terme. Voilà, le court terme, c'était réapprendre à marcher. C'est juste ça. J'arrivais pas. C'était vraiment compliqué pour moi. Donc, pendant quelques temps, c'était vraiment dur. Je suis allé en centre de rééducation à Cap-Breton, où là, j'ai vraiment travaillé très, très dur. Voilà, c'était un jour. Voilà, je pensais pas au lendemain. J'étais dans ma journée. Et le moyen terme, c'était essayer de reprendre le water polo en janvier. Alors que triple opération, ma dernière opération, c'était en octobre, je crois. Donc, c'était un délai assez serré.
Assez court, ouais.
Mais j'ai réussi. Et le délai long terme, c'était faire les championnats du monde, je crois que c'était 10 mois plus tard. Et je les ai faits. Voilà, c'est m'accrocher de le parcours là, où vraiment, quand j'arrivais plus à marcher, même la première fois où j'ai refait un ciseau de brasse, où il m'a fallu, sincèrement, il m'a fallu 30 minutes pour juste écarter les jambes. Parce que mentalement, j'avais cette douleur ancrée. Là, j'ai douté. Je me suis dit, mais Alex, tu ne peux pas marcher, tu n'arrives pas à faire un ciseau, et toi, tu veux faire le championnat du monde c'est l'été. Mais tu es fou. Oui, j'ai douté, mais je me suis accroché. Et c'est pour ça, ce qui m'a maintenu, c'était de voir le côté positif sur chaque jour. Chaque jour, j'essayais de voir un truc positif. Voilà, si par exemple...
Un petit progrès.
Un petit progrès. Voilà, je m'accrochais à ça. Si par exemple, la veille, j'arrivais à faire... au début, je faisais, mais... Quand je dis 25 mètres juste de ciseaux et j'avais mal, je mettais une heure. Le lendemain, j'essayais de faire 26 mètres, 27 mètres. J'essayais de m'accrocher. Et ces petits... Comment dire? Ces petits succès ont fait qu'à la fin, j'ai pu... faire ces gros championnats à la fin. Voilà, mais cette période, elle était vraiment compliquée. Vraiment compliquée. En fait, c'est un gouffre entre, tu es aux Jeux Olympiques. Et d'un coup, tu sais plus rien.
Ouais, c'est ça. Voilà. C'est passé, comme tu disais, de l'euphorie au désespoir, quoi.
Désespoir. Compliqué. Très, très compliqué. Mais ça m'a forgé. Mon caractère, après, quand je t'arrive ça, bon, tu peux. Avancer tranquillement. C'est tes cicatrices après qui te forment et maintenant pour m'atteindre, il faut y aller. Quoi.
Si on continue à parler de ce sujet, est-ce que du coup tout ça, tout ce que tu as appris, enfin on sent que c'est profondément ancré en toi, tu penses que ça a changé qui tu es? Entre le Alex, justement, d'il y a 10 ans, quand tu étais un peu la fleur au fusil pour l'amour du sport. Et puis maintenant, on sent que tu sais vraiment pourquoi tu le fais.
Exactement. Non, ça, je sais exactement pourquoi je fais tous ces sacrifices. À l'époque, c'était juste. Je voulais être le meilleur, je voulais gagner. Maintenant, je veux être le meilleur, je veux gagner. Mais surtout, je veux montrer. À ma fille un bel exemple, à ma famille que tous ces sacrifices n'étaient pas faits pour rien. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses derrière, quoi. Et j'ai aussi envie de montrer aux jeunes que c'est possible. Par exemple, avec mon double parcours waterpolo et études, voilà, j'ai envie de leur prouver qu'ils peuvent le faire. Et je les pousse à mon club, je leur dis, quand ils ont le bac, c'est pas fini, quoi. Il faut aller au bout et continuer surtout le waterpolo et les études. Parce qu'on peut le faire. C'est très compliqué. À cet âge-là, on a envie d'une chose, c'est d'aller faire la fête. Bon, en ce moment, c'est un peu compliqué, mais à 20 ans, on a envie de faire la fête. Mais je leur dis, on peut faire les deux. Et il faut s'accrocher. Parce que moi, je sais que ça m'a beaucoup apporté. Voilà. Sortir la tête des bassins, et ça m'a permis de voir autre chose. Voilà. Parce que quand tu fais que du sport de haut niveau, c'est pas une vraie vie, quoi. C'est la belle vie, faire du sport de haut niveau. Mes coéquipiers, le matin, ils s'entraînent, l'après-midi, ils dorment, le soir, c'est reparti. Voilà, on est bien. Mais il y a une autre vie derrière ça. Et y être et rencontrer des personnes si exceptionnelles. Hein. Par mon parcours, j'ai pu échanger avec des personnes incroyables. Et je conseille à tout le monde, aux jeunes, de faire ce double parcours.
Alors justement, tu me fais une belle transition parce que évidemment, je voulais parler de ça. C'est quand même hyper atypique. Ouais. Enfin, c'est ce que tu disais toi-même. Donc, on a compris tous les sacrifices que tu fais. Mais donc, en fait, si je comprends bien, pour revenir en arrière, tu fais tes études. Et donc, en fait, tu te lances dans une carrière professionnelle. Et en parallèle de ça, donc, tu continues à faire du sport de haut niveau qui va t'amener ensuite au plus haut niveau, puisque niveau mondial, niveau Jeux Olympiques. Est-ce que pour toi, ça a été, en quoi est-ce que ça a été plutôt un frein et une force de mener les deux de front? Parce que j'imagine que frein, ça a été forcément plus difficile, c'est tout ce que tu dis. Mais tu as l'air de dire que ça a été aussi, c'est aussi un atout d'une certaine manière, j'imagine, au niveau peut-être du water polo, mais aussi beaucoup au niveau de ton job.
Ouais. Bien sûr. Après, c'est, comme tu as pu le remarquer, c'était vraiment dur. Voilà, quand je me suis lancé, j'ai commencé en fait par du droit. J'ai un master 2 en droit des affaires. Et le problème en France, et maintenant je pense que ça commence un peu à changer, c'est qu'au début, voilà, j'étais un étudiant parmi tant d'autres. Donc je pouvais juste louper quelques TD, faire des rattrapages.
Oui, il n'y avait pas d'horaire aménagé pour toi.
Les cours, on ne me les envoyait pas. Heureusement que j'avais un groupe d'amis qui me prenaient les cours et qui m'envoyaient leurs notes. Ils comprenaient. Moi, je leur ai dit, mais je peux pas, j'ai entraînement. Ils m'ont dit, mais Alex, t'inquiète pas. Mais sans eux, j'aurais jamais réussi. Je les remercie encore et je leur dis merci. Mais c'est compliqué. Donc, oui, beaucoup de sacrifices, encore une fois. Mais le côté positif, c'est que voilà, j'ai eu une autre vie, quoi. Je sortais de l'eau. Le droit, c'était quelque chose d'assez particulier aussi. Faire du droit, je me suis pas lancé dans la facilité.
C'est clair.
Non, mais après, j'ai fait un droit des affaires, un droit du sport. Là, quand j'étais en Master 2, comme on était 30, donc là, les directeurs de Master, ils me connaissaient bien, donc j'avais le droit aux cours. Voilà, ils étaient plus conciliants et je les remercie aussi. Donc c'était assez dur. Et ensuite, moi, pendant 4 ans, j'ai fait que du waterpolo. J'ai voulu faire les Jeux Olympiques, donc je me suis dit, je sentais que c'était un frein parce que j'étais fatigué. Voilà, faire l'entraînement, aller en cours, au entraînement le soir et rattraper les cours du matin que j'avais pas suivi. Donc je finissais à minuit, 1h, c'était compliqué. Donc je me suis dit, à la fin de mon Master 2, j'ai fait, on va arrêter pendant 4 ans, on va se consacrer au water polo. Donc j'ai eu la chance de faire les Jeux Olympiques. Donc ces 4 ans ont été également positifs parce que ça s'est fini par les Jeux. Et ensuite, j'ai repris donc à la Grenoble École de Management. Oui, je suis reparti pour 4 ans. C'est un parcours grande école, en fait, qui permet et qui est adapté aux sportifs de haut niveau, qui leur permet de pouvoir continuer leur entraînement, leur compétition. Tout est à distance. Donc, le parcours normal, c'est en 2 ans. Et donc, le split, et on fait en 4 ans. Voilà. Et donc, j'ai fraîchement diplômé l'année dernière. À 32 ans. Merci.
Non, mais c'est ça qui est intéressant, parce que finalement, c'est que c'est pas une reconversion, parce que t'avais déjà ta carrière que t'avais commencé dans le droit, mais quand même, t'as fait la pause Jeux Olympiques et ensuite tu décides de rempiler sur quelque chose de plus corporate. T'as pas eu à un moment donné peur ou des personnes autour de toi qui t'ont dit, mais pourquoi tu fais ça? T'inquiète, fais le water polo. De toute façon, t'as fait des JO. Là, il y a des championnats du monde. Enfin, la reconversion, c'est toujours un sujet difficile. Et là, finalement, c'est ce que t'as choisi de faire. C'est aussi de préparer l'avenir, j'imagine.
Bien sûr.
Et du coup, quel a été ton état d'esprit? C'était une évidence pour toi de vouloir quand même faire ces études supplémentaires?
Bien sûr. Je voulais, je voulais profiter en fait du water polo pour pouvoir faire un autre parcours à côté. Parce que je me suis dit, je l'ai fait en droit, j'ai envie de voir autre chose, j'ai envie de voir le côté éco-management. Et cette école m'a donné l'opportunité de le faire. Donc ça, c'est une question, j'ai réfléchi deux secondes. Quoi. Dès que j'ai pu rentrer, bien sûr, avec plaisir, je suis allé. Mais quand je suis allé, voilà, tous, ils avaient 20 quelques années, moi j'avais déjà 30 ans. J'étais marié, donc non, il y avait déjà un gap entre les jeunes de la promotion et moi, quoi. Mais
c'est pas facile quand même, au niveau de un peu de l'amour propre, quoi, quand même, de se remettre avec des petits jeunes.
Mais non, il faut toujours se remettre en question. Et là, c'était un nouveau défi, un nouveau challenge. Voilà, je voulais aller au bout de ça. Et pour avoir la meilleure reconversion possible, je savais que c'était le meilleur choix possible. Ça me donnait une double compétence. Ça, plus le water polo, ça... parce que la reconversion, c'est compliqué. Pour un sportif de haut niveau, à gérer, c'est très compliqué. Voilà, on l'a encore vu récemment. Il y en a qui ne le supportent pas. Et j'ai voulu la préparer le plus tôt possible pour être vraiment plus serein. Me dire, voilà, si je suis vraiment blessé, que c'est fini. Voilà, j'ai quelque chose à côté. Donc, j'ai tout fait pour être serein.
Et là, tu nous disais, donc, tes journées, maintenant, ouais, c'est waterpolo et KPMG, donc pour ne pas citer ta c'est boîte, là, voilà. Et c'est quand même le job de consultant, normalement, un job assez prenant. Est-ce que tu peux me dire, je ne sais pas s'il y a des bénéfices, on va dire, de ta double casquette, mais est-ce qu'il y a, en fait, finalement, des valeurs ou des choses que le monde du sport t'ont appris et que finalement tu te rends compte, tu arrives à appliquer dans ton quotidien de professionnel.
Le parallèle entre sport et entreprise est évident. Évident. Par exemple, à KPMG, quand on va chez le client, on y va en équipe. Et c'est ce qui m'a aussi intéressé. Il y a le manager, le superviseur, le senior, le junior. Là, je suis junior, hein. Je suis tout en bas. Au waterfall, je suis tout en haut. Là, je suis tout en bas. Encore une fois. Un petit côté amusant, mais bon, au contraire, c'est bon. Et en fait, je le vois en équipe et on se dépasse chacun. Il y a vraiment un esprit aussi compétition. On veut faire le meilleur travail possible. Voilà, donner satisfaire le client, être au mieux. Comment dire, ce parallèle entre sport et entreprise, chaque jour, quand par exemple, un entrepreneur, quand il commence sa journée, il y a une grosse remise en question aussi. Il y a des objectifs court terme, moyen terme, long terme. C'est pareil que chaque sportif. C'est, pour moi, c'est vraiment, comme j'aurais dit à KPMG, vous êtes des sportifs de haut niveau parce qu'ils ne s'arrêtent jamais. Ils commencent à 8h, ils finissent à 21h, 22h. Moi, quand je suis arrivé que l'après-midi, ils ont rigolé. Mais j'ai dit, écoutez, le matin, moi, je suis sous l'eau. Vous êtes sous l'eau dans vos dossiers. Moi, je suis sous l'eau, vraiment sous l'eau. Mais il y a vraiment on dirait un vrai parallèle. Et il y a aussi une certaine approche mentale. Parce que, il faut être le plus performant possible. C'est ça, en fait, le but. Le but ultime, c'est être performant possible et aller au bout de ses objectifs. Ça.
Comment tu... Parce que maintenant, tu as les deux casquettes et tu veux être... Je sens que tu es dans la performance. Et autant pour le water polo, je vois bien que tu t'entraînes deux fois par jour, donc on comprend que tu y arrives. Et puis maintenant, t'as quand même un bel historique derrière toi. Autant, comme tu le disais, le monde professionnel, c'est encore un peu le début finalement pour toi. Quels sont comment tu essayes de progresser? Comment tu essayes de te nourrir? Comment tu essayes de faire pour devenir le plus performant? Ça passe par ton manager, ça passe par des lectures, par des podcasts. Enfin, comment tu fais pour te former finalement?
Manager et lecture. Voilà. En fait. Comme au waterpolo, j'essaie de faire comme j'ai fait avec le waterpolo. Quand je suis arrivé en équipe 1, je me suis mis à côté du meilleur joueur de l'équipe 1 et j'ai dit, écoute, tu vas m'apprendre le métier. Voilà. Et je ne l'ai pas lâché. Il me donnait les conseils et moi, je les appliquais. C'était vraiment en mode militaire. Hein. Mais il me disait, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Le mouvement, c'est ça. Il m'apprenait le waterpolo. Et à KPMG, je fais pareil. Dès que je peux, je demande au manager... Qu'est-ce que je dois faire? Comment aborder ce sujet? Voilà. Et ce qui est bien aussi à KPMG, c'est qu'il y a beaucoup de formations. Je suis pas laissé à l'abandon. Et ça, j'avais peur. Parce que je me suis dit, voilà, je suis juriste et j'ai un management, une école de management, mais commissaire au compte.
Oui, la pratique, c'est autre chose, quoi.
Voilà, la pratique, c'est autre chose. Mais voilà, j'ai pas été lâché dans l'océan comme ça. Non, j'ai vraiment, en fait, c'est donc déjà s'inspirer de ceux qui ont réussi, de ceux qui vont, ceux qui t'apprennent le métier, quoi. Et c'est ça. Il y a.
Mais attends, ce que tu dis, c'est marrant parce que tu dis s'inspirer, mais c'est pas que s'inspirer là. T'es assez actif dans la démarche parce que quand tu vas te mettre à côté du gars et que tu lui dis je veux tout apprendre de toi, ou quand tu dis à ton manager, tu lui poses des questions, c'est une démarche qui est assez peu fréquente. Non, mais c'est pour ça que je le soulève, parce que je trouve ça intéressant ce que tu dis. Bah ouais, parce qu'en fait il y a beaucoup de gens qui s'inspirent et c'est déjà une très belle première étape, mais de là à demander de l'aide, de là à dire, à avouer je ne sais pas et j'aimerais apprendre. Tu sais, on est quand même dans une société où beaucoup de gens, et moi la première, hein, je t'assumes pas toujours et tu te rends toujours pas forcément compte d'ailleurs que t'as pas le niveau. Et donc là, c'est, je trouve, une assez belle humilité de dire,
Je suis junior en fait, je suis junior débutant, donc je suis au bas de l'échelle, je peux que progresser. Et j'ai la chance d'être entouré par des collaborateurs de KPMG qui sont vraiment de très haut niveau. Donc oui, je m'inspire d'eux, je leur pose le plus de questions possibles. Quand je ne suis pas chargé, je lis tous les incollables parce qu'ils ont une grosse bibliographie de toutes les techniques, de tout ce qui peut se passer dans le métier. Donc j'essaie de lire tout ça, voilà, pour in fine être opérationnel. C'est ça mon but ultime. Voilà. Même si je suis à mi-temps, j'ai envie d'avoir une progression normale.
Qu'est-ce que tu pourrais dire, Alexandre, à des personnes qui, comme toi, rêvent d'avoir une double carrière? Des personnes qui parfois d'ailleurs sont pas un peu stigmatisées, mais on leur dit non, mais c'est pas possible parce qu'on va te dire tu peux pas le faire à 100%, c'est-à-dire que tu peux pas être bon dans les deux. Je trouve que tu as un merveilleux exemple de l'inverse, donc j'aimerais bien que tu me dises ce que tu as sur le cœur à ce sujet.
À ceux qui disent c'est pas possible, il faut rigoler, il faut leur rigoler dessus et dire je vais te montrer, je vais le faire, c'est possible. En fait, quand tu mets toutes les chances de ton côté, vraiment tu es habité par ce que tu fais, tu arrives. La victoire aime l'effort. Il y a un boxeur qui a dit ça à la fin d'un combat, la victoire aime l'effort. Ça m'a marqué, mais c'est ça. En fait, si tu te donnes à fond, ça va payer. Ça va payer, et si tu as envie de faire un double projet, tu feras un double projet. Un triple projet, tu le feras. Ça va être dur, tu vas devoir faire des choix, mais ne lâche jamais rien. Et va au bout de tes convictions, va au bout de tes rêves. Le chemin sera dur, mais quand tu vas arriver, tu vas être tellement content, tellement heureux, et de pouvoir partager ça aussi avec tes proches, tu vois, c'est quelque chose d'assez merveilleux. Donc, crois en toi, crois en tes rêves, n'écoute personne. Toi, tu sais exactement ce que tu dois faire, la route que tu dois prendre, et c'est parti.
T'as eu des personnes, sans citer de nom, hein, mais qui croyaient pas en toi, qui croyaient pas dans le fait que t'allais réussir, soit à mener les deux troncs, soit juste à faire du waterpolo.
Moi, quand j'ai commencé le waterpolo, jusqu'à vers 18 ans, dans mes catégories jeunes, j'étais toujours remplaçant. J'étais le remplaçant de l'équipe, j'étais le porteur d'eau. Mais j'avais rien lâché, quoi. Chaque entraînement, je me donnais à fond. Et j'avais pas de talent particulier, aucun talent particulier, mais juste j'étais travailleur. Voilà, c'est le travail et c'est l'effort, et l'effort au long terme, quoi. Je me suis pas dit, allez, je me donne un fond un mois et après c'est parti. Je me suis dit, allez, c'est parti. Alex, tu vas y aller, tu vas gérer ton effort, mais sur le long terme. Et oui, il y a plein de personnes qui n'ont pas cru en moi. Au contraire, moi, ça me donne de l'énergie. Si tu me dis que tu n'arrives pas, je vais y arriver, je vais te montrer. Après, je vais te dire, t'as vu, j'ai réussi. Mais il faut jamais rien lâcher. Même si c'est dur, même s'il y a beaucoup de choses autour, beaucoup d'éléments qui peuvent être contre toi, il faut s'accrocher. S'accrocher, et ça finira toujours par payer.
T'as des astuces, des trucs, tu me parlais aussi vachement de tes amis, même si j'imagine que ta vie sociale, bon là, entre le confinement et ta double casquette, elle en a pris un coup, et ta petite fille, elle doit être assez réduite, mais j'ai l'impression quand même que l'amitié, c'est un truc hyper important pour toi, mais peut-être que c'est autre chose. Pour les personnes qui nous écoutent, qui sont assaillies par ces fameux doutes, par des personnes extérieures qui leur disent « tu ne vas pas y arriver » et qui n'ont pas forcément le réflexe, tu vois, de dire « non mais je vais leur montrer ». qui n'ont pas forcément cette rage, mais qui s'effondrent, et il y en a plein. Est-ce que tu aurais des conseils à leur donner?
En fait, comme je te l'ai dit avant, il faut se faire confiance. Il faut vraiment se faire confiance et arrêter, je pense, de se diminuer. C'est ça la plus grosse erreur. Et ça vient de l'éducation, en fait. Parce que dans les systèmes de notation en France, par exemple, si tu as 18, on te dit c'est bien, mais il fallait faire ça, il fallait faire ça. On n'est jamais satisfait. Il faut aller au bout de son truc, en dire voilà, tu vas pas y arriver. Oui, je vais y arriver. Oui, je vais être satisfait de ce que je fais. Et oui, ça va m'apporter de la joie, des belles émotions. Et comment dire? Vraiment, il faut. Si j'ai vraiment un conseil, allez, je vais. Qu'est-ce que. Le mental, en fait, c'est le mental. Vraiment. En fait, il faut se dire qu'on peut supporter énormément de choses. Le cerveau, notre corps, nous, on peut supporter énormément de choses. Avant ces opérations, franchement, je ne pensais pas que je pouvais m'en sortir de ça. Voilà, je me suis dit, c'est fini, tu ne marches plus. Comment tu peux y arriver? Mais c'est ces épreuves après qui te forgent et qui te disent, allez, tu peux y arriver.
Ouais, tu t'es étonné toi-même.
Bien sûr. Et quand je suis sorti de la troisième opération, mais je me suis dit, mais c'est pas possible, Alex, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu aurais pu jouer encore un petit peu, un, deux ans, et après c'était bon, tu n'avais pas besoin de toutes ces opérations. Mais je voyais le long terme. Mais s'il y a quelqu'un qui dit, il ne croit pas, ben, montre-lui et surtout entoure-toi des personnes positives, bienveillantes. Moi, j'ai fait un tri dans ma vie, de toute façon. Tous ceux qui sont négatifs et qui t'amènent vers le bas, j'ai pas le temps, en fait. J'ai pas de temps et c'est dur parfois, hein, parce que ça peut être des amis de longue date, mais si à chaque fois ils sont négatifs, non. Il faut vraiment s'entourer du positif, voir toujours le positif. Et je sais, la vie parfois elle est compliquée, mais toujours garder le positif et croire en soi. Voilà. Je sais pas si ça te va.
Non, mais merci. Je pense, bah, moi, tout me va, mais c'est, je pense surtout
ouais,
que ça.
Je sais pas si ça peut parler
inspirer,
aux gens. J'essaie de partager vraiment tout ce que j'ai vécu, quoi. D'ouvrir mon cœur et de leur montrer que, voilà, il faut y croire. Il faut y croire. Le petit Alexandre Camarasa, quand il a commencé, il avait dit, tu ferais tout ça, ben,
c'est
non,
clair.
Il aurait dit non. Il aurait dit, mais reste tranquille. Ne rêve pas trop. Non, mais il faut s'accrocher. Voilà, je viens d'un milieu assez modeste. J'ai des grandes études et il n'y a personne dans ma famille qui a fait ça. Le sport de haut niveau, il n'y a personne qui a fait ça. Voilà, et pourtant, je me suis accroché. J'avais aucune prédisposition. J'étais petit, j'étais gros. Je jouais pas beaucoup.
Tu te rends compte, et là, tu es athlète, tu as fait les Jeux Olympiques, quoi, et les championnats du monde.
C'est ça. Donc, il faut croire en ses rêves, vraiment. Après, ne rien lâcher, c'est ça. Ouais, je suis un peu ému, c'est vrai.
Non, mais merci.
Je remercie Alexandre Camarasa. Il me dit, voilà, beau chemin parcouru, mais c'est pas fini. Il y a encore de belles choses à venir.
C'est clair. Tu t'entraînes d'ailleurs pour les JO de Tokyo?
Pour Tokyo, oui.
Je pense que tu
Tokyo,
vas.
Tokyo, oui. Ouais. Je me donne à fond. On va essayer de les faire. C'est très compliqué parce que.
On espère.
En sport co, il y a 12 places. Il y a des places réservées par continent. Donc, il faut vraiment être parmi les meilleurs mondiaux pour pouvoir y aller. Mais oui, je m'entraîne pour. Je m'entraîne pour et j'espère les faire. J'espère finir par Tokyo. Voilà. Paris, c'est un peu loin pour moi. Je suis un peu vieux et je sens que, même d'un point de vue professionnel, si je vais jusqu'à Paris, d'autres portes se fermeront, professionnellement parlant. Donc, je pense que je suis allé au bout du water polo.
Bah écoute, si tu arrives à faire 2 JO dans ta vie, c'est quand même déjà pas
même
mal.
C'est très bien, je suis content.
C'est clair.
Parce que ça faisait 24 ans qu'en fait le water polo n'avait pas été qualifié. Hein.
C'est
ouais,
fou.
24
hein.
ans quand on s'est qualifié. Donc déjà, c'est un exploit.
C'est clair. Alex, pour arriver au bout du gratin, je termine en général par des questions que j'appelle le crible du gratin. Tu as déjà répondu à certaines d'entre elles un peu dans le fil des questions que je te posais, mais il y en a une que j'aime bien, c'est est-ce qu'il y a une maxime, des mots de sagesse, une citation qui t'ont particulièrement marqué et que tu pourrais du coup partager avec nous?
Celle que je t'ai dit, c'est « La victoire aime l'effort ».
La victoire aime l'effort.
C'est un boxeur, je m'en souviens plus son nom. Mais ça m'a marqué. Il faut, si tu veux gagner, il faut t'entraîner. Voilà, si tu veux progresser professionnellement, ben, il faut se lever l'âme tous les jours, il faut y aller. Il faut rien lâcher. Il faut être...
Pas de secret.
Non, pas de secret, ça tombe pas comme ça. Si au début de ma carrière, j'avais attendu que la pomme tombe, elle serait jamais tombée. C'est moi qui allais la chercher. J'ai pris l'échelle et je suis allé monter, j'ai coupé la branche et j'ai tout pris. Ouais. Je suis un gourmand, donc j'ai tout mangé.
J'aime bien l'image.
C'est ça. Il faut y aller. On va rien nous donner dans tous les cas. On ne donne rien. Il faut aller le chercher, il faut aller le prendre. C'est ce qu'il faut. C'est le plus important. Aller prendre les choses.
S'il y avait quelque chose qui était à refaire, que ce soit dans ta carrière chez KPMG, enfin pro, on va dire, dans le water polo, au niveau personnel aussi, qu'est-ce que tu ferais différemment?
Rien. Vraiment rien. Ouais, je suis content de ce que j'ai fait. Je suis resté dans le club de cœur. Voilà, même si j'ai eu des propositions pour jouer à l'étranger, mais j'ai toujours voulu jouer pour mon club Marseille. Quand j'étais gamin, je rêvais d'intégrer cette équipe. Là, j'y suis. J'entends ma fille qui dit « papa », ça me fait rire. Non, mais voilà, je ne changerai pas. Après le parcours universitaire, je suis très heureux parce que j'ai accompli. Et la reconversion à KPMG, non, je suis très content, très content. Voilà, je ne changerai pas grand-chose, vraiment. Non, mais après, on peut avoir des regrets. Ah, tu te dis, profiter un peu plus, faire plus de resto, profiter de la vie. Mais je le ferai plus tard. Ah, pour l'instant, là, je suis concentré sur mes objectifs.
Focalisé.
Focus, tout le temps.
Il y a une question que j'aime bien. Je te préviens, elle n'est pas facile. C'est est-ce qu'il y a une croyance, quelque chose dans lequel tu crois profondément et qui pourtant tu constates est controversé ou qui n'est pas tenu pour acquis par d'autres personnes? C'est-à-dire que, je ne sais pas, quelque chose où tu te rends compte que le monde autour de toi est plutôt... Enfin, tu n'es plutôt pas d'accord avec le monde autour de toi. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui te vient en tête.
Pas d'accord avec le monde autour de moi. Dis-moi, par exemple, ce serait quoi pour toi?
J'ai eu par exemple sur le podcast quelqu'un qui m'a dit moi je ne crois pas que les personnes plus âgées sont plus sages, par exemple. Il dit en fait qu'il y a les biais cognitifs font que au final on ne s'assagit pas vraiment avec le temps, tu vois, que l'expérience ça compte. Tu vois, que contrairement à la pensée populaire, en fait, ça c'était Fabien Olicard, on ne croit pas vraiment, on ne devient pas plus sage avec le temps. Tu vois, enfin, c'est, mais bon, il y a peut-être rien, mais tu vois, ça peut être des choses comme ça, hein, où il y a des personnes, bah, tu vois, enfin, par exemple, là, un autre épisode, bon, qui n'a pas encore été diffusé à l'époque où on nous parle, c'est de dire, je ne crois pas dans la spécialisation. C'est-à-dire, je ne crois pas que pour être le, je ne crois pas au fait que être 100% spécialisé sur un sujet permet uniquement d'être le meilleur, tu vois. C'est-à-dire qu'il pense au contraire, un peu comme toi, peut-être que butiner sur plusieurs sujets permet de se nourrir plus.
Ouais, je ne crois pas que la spécialisation soit la meilleure des choses. Parce que, par exemple, pour le water polo, tu vois, je sais que ça m'a servi. C'est aussi mon parcours universitaire, voir autre chose, échanger. Parce que si j'avais fait que du water polo, j'avais vu que du water polo, ben je serais enfermé dans ce monde du water polo. Et là, d'avoir vu autre chose, d'avoir échangé avec d'autres.
Tu penses que ça t'a vraiment aidé?
Bien sûr.
Tu aurais un exemple concret de en quoi ça t'a aidé, une décision que tu as prise peut-être à cause de ça?
Après, peut-être c'est dans le sport. Enfin, c'est dans la prépa mentale ou. Si. Mais après ça se recoupe quand même avec le water polo, vu que c'est la prépa mentale et le sport et l'esprit, ça va ensemble. Et après, qu'est-ce que tu vois, tes spécialisations? Compliqué cette question. Je vais prendre un joker, j'appelle un ami.
Tu vas y réfléchir, tu me diras plus tard. Bon, et puis ma dernière question, c'est une question que j'aime beaucoup parce que j'adore lire. Et du coup, j'espère que tu vas pouvoir me répondre. Mais est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué, qui t'a particulièrement plu et que du coup, tu pourrais partager avec nous?
Moi, c'est plutôt des livres. J'adore les biographies de sportifs de haut niveau. Ça, c'est ma grande lecture. Donc, ça va de Mike Tyson à Martin Fourcade, en passant par Usain Bolt. Voilà, c'est...
Ah, je savais pas qu'il avait une biographie, Usain Bolt. Ah ouais?
Ouais.
Ah bah écoute, Mike Tyson, on m'a déjà dit à plusieurs reprises qu'elle était géniale. J'avoue que je l'ai pas encore lue, mais il paraît qu'elle est assez extraordinaire.
C'est bien de voir un peu, avant d'être en haut du classement mondial, d'être le meilleur au monde, ils ont connu, comme tout le monde, des doutes, des défaites. Voilà, ils sont... Ben, surtout, par exemple, Tyson, il a une histoire folle. Quand il est passé, c'est quand même incroyable. Enfin, il est fini meilleur boxeur du monde, et peut-être de tous les temps, pour les puristes. Non, mais j'aime bien m'inspirer de ça. Et là je commence Thierry Henry, par exemple. Thierry Henry...
Ah, pas mal.
Moi, j'adore le personnage.
C'est vrai qu'on oublie souvent que quelqu'un qui a été champion du monde n'est pas né champion du monde et qu'il a commencé nul, comme tout le monde, et qu'il a peu à peu gravi les échelons. Quoi.
Exactement, il a cru en ses rêves, il a cru en lui-même, et il a dit « allez, c'est parti ». Et c'est très inspirant. Moi, j'aime bien, c'est mes lectures.
Eh bien, écoute, ça me donne envie d'ouvrir le bouquin sur Mike Tyson. Donc, merci beaucoup, Alex. Et puis, merci de façon générale pour ton temps parce que c'était hyper, hyper riche. Et je te remercie d'avoir été aussi sincère et d'avoir autant partagé.
Merci à toi.
Pour les personnes qui souhaiteraient entrer en contact avec toi, te suivre, suivre aussi l'actualité du water polo, qu'est-ce qu'il y aurait comme ressources? Où est-ce qu'on peut te retrouver?
Sur Instagram, LinkedIn... Twitter, Facebook, je suis un peu partout.
Instagram, c'est Alexandre Camarasa. Je ne me rappelle pas si c'est Alexandre Camarasa tout attaché.
Je crois, ouais.
En tout cas, je mettrai les liens. Donc, Insta, LinkedIn.
Ouais, j'essaie de partager, j'essaie de faire découvrir tout. Ce beau sport. Vraiment, ça me tient vraiment à cœur de montrer que c'est un beau sport. N'hésitez pas à regarder ou à y jouer. Si vous passez par Marseille, dites-moi, on fera un water polo ensemble. Je vous promets, on sera gentil. Non, mais vraiment, c'est important de montrer que ce sport existe, qu'il y a beaucoup de personnes qui jouent, il y a beaucoup de sacrifices derrière. Et malgré le peu de médiatisation, peu de moyens qu'il y a derrière, mais on joue vraiment avec le cœur. Quoi. Ça n'a pas été encore gangréné par l'argent.
Ouais, c'est clair. C'est clair. Et juste, Alex, pour des personnes justement qui aimeraient voir des matchs de water polo, t'aurais un conseil à donner, quoi? Juste tout bêtement YouTube, tu trouves des super matchs sur YouTube?
Sur YouTube, il y a une plateforme qui s'appelle Sport Hall, je crois, qui retransmet les matchs de Pro A en direct. Donc, voilà, ça, c'est une bonne chose.
C'est une bonne opportunité.
Ouais, très, très bien. Donc là, par exemple, on joue demain et je crois que ce sera en direct sur Sport Hall. Voilà, contre Douai.
Cool.
Contre les ch'tis. Les ch'tis viennent à Marseille.
Les ch'tis descendent à Marseille. Trop bien. Bon, Alex, merci pour ton temps. C'était hyper, hyper sympa. Et puis, j'espère à bientôt.
À très bientôt. En tout cas, merci à vous. J'espère que ça vous a plu. Et en tout cas, n'hésitez pas à me contacter ou quoi si vous voulez voir du water polo.
Et bien, avec grand plaisir. Merci, Alex. Et voilà, fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Et quelques petites choses avant de vous quitter. D'abord, si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, c'est simple, allez directement sur le blog du podcast. Donc c'est www.le-du6gratin.fr. Vous trouverez normalement toutes les infos dessus. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser d'autres questions, que je mettrai d'ailleurs peut-être un jour sur le podcast, ou me proposer de nouveaux invités, ou juste me faire un feedback, me proposer un livre, peu importe à la rigueur, et bien surtout, n'hésitez pas à le faire. J'aime bien répondre. J'essaye d'être assez active sur les réseaux sociaux et en particulier sur LinkedIn et sur Instagram qui sont mes deux réseaux sociaux de prédilection. Donc sous le pseudo Pauline Legnaud, tout attaché, c'est très simple. Dernière chose, un truc qui compte énormément pour moi, et je sais que c'est pénible à faire, mais vraiment ça compte, c'est si vous me laissez une note 5 étoiles ou que vous parlez du podcast autour de vous ou que vous mettez un avis. Et la note 5 étoiles, c'est en particulier sur Apple Podcasts, sur iTunes. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'il y a le plus d'écoute et avoir des notes, en fait, permet de donner plus de visibilité au podcast. Donc vraiment, vraiment, n'hésitez pas. Et si on est si nombreux aujourd'hui à écouter Le Gratin, à faire partie de cette communauté, bah c'est grâce à vous et justement à toutes ces personnes. C'est plus de 3000, 4000 personnes qui ont à chaque fois pris le temps de mettre des notes. Donc ça m'aide beaucoup et merci à eux. Comme à chaque fois, vraiment un grand, grand merci de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que l'épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt.